franceinter.fr.
Bonjour Olivier Bénisse.
Bonjour.
La revue de presse, deux jours après un nouveau naufrage meurtrier au large de la Libye, le sort des migrants à nouveau au cœur de la presse ce matin.
Alors qu'on se demande en France comment assurer de meilleures conditions de vie aux exilés, Le Monde s'intéresse ce matin à ceux que l'on n'a pas pu sauver, ceux qui sont morts en tentant de rejoindre l'Angleterre. Il y en a eu 10 depuis le début du mois de juin. Tout l'enjeu devient alors de les accompagner pour un dernier voyage. Les associations, les communautés font tout pour organiser des funérailles où se mêlent migrants et membres épars de la famille. La reporter Julia Pascal raconte ainsi comment un Érythréen installé près de Cholet a fait 6 heures de route pour assister aux funérailles d'un jeune homme de 17 ans qu'il ne connaissait pas, mort noyé dans un bassin de rétention du tunnel sous la Manche. C'est comme notre frère, un jour moi aussi j'étais comme lui. Au Secours catholique, Mariam Guéret raconte elle son travail pour assurer la dignité des défunts. Les musulmans préfèrent inhumer les corps en France, les catholiques et les orthodoxes tiennent à les rapatrier. Elle dit se souvenir de chacun d'entre eux. L'humanité tente ce matin de décrypter les raisons de ces exils et pour le journal, les pays riches et en particulier les membres de l'Union européenne sont pleinement responsables, fauteurs de guerre, semeurs d'exil. Chloé Rébillard évoque l'exemple libyen à travers le portrait de Yacoub Salah, ancien guide touristique, aujourd'hui réfugié dans l'ancien lycée Jean Carré à Paris. Il dénonce l'intervention française en 2011 en Libye qui a bouleversé sa vie et qui l'a poussé à l'exil. Le jeune homme conclut avec amertume, c'est l'Europe qui nous a mis dans cette situation, nous n'avons pas le choix. Il pense que nous sommes là pour ruiner l'économie alors que c'est Sarkozy qui a détruit la Libye, il en a fait un désert. D'ailleurs, s'il obtient le statut de réfugié, il est déjà prêt à repartir en Tunisie ou en Algérie. Ce n'est pas la bombe atomique qui a poussé le Japon à capituler, titre un peu provocateur ce matin sur Slate, qui relaye un article de Ward Ace Wilson, spécialiste britannique du désarmement nucléaire. Il revient sur une longue polémique entre historiens sur les véritables raisons de la capitulation japonaise. Beaucoup affirment en effet qu'elle arrive soit trop tard, 3 jours après Hiroshima, soit trop tôt, quelques heures avant Nagasaki. L'analyse évoque aussi de nombreux autres indices souvent ignorés par les livres d'histoire, comme la progression de Staline sur l'autre front ou le fait que le pays était de toute façon presque entièrement ravagé, bombe atomique ou non. C'est donc sur slate.fr et c'est l'une des lectures les plus instructives du jour.
Et les plus riches, Olivier Bénisse, fuient de plus en plus la France.
C'est la une des Échos qui s'inquiète de l'accélération de l'exil fiscal. Le quotidien s'est procuré les chiffres du nombre de départs parmi les contribuables les plus contribuants, si l'on peut dire, plus 40% entre 2012 et 2013, la dernière année pour laquelle nous avons des chiffres, chez les Français dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 100 000 euros, plus 15% de départ chez ceux qui payent l'ISF. Alors faut-il pour autant se ruer sur Twitter pour y poster des messages assortis du hashtag Hollande démission ? Eh bien, pas vraiment, puisque toujours selon les Échos, si l'on remonte encore un peu plus loin dans le temps, on constate que cette accélération des départs démarre en fait en 2011, après l'adoption des mesures d'austérité. En 5 ans, les départs ont été multipliés par 3. Partir, c'est mourir un peu, mais pour un président de la République, ça peut être un véritable suicide politique. C'est le Figaro qui nous inspire sur ce sujet ce matin. En plus de s'interroger sur les vacances secrètes de Hollande, sujet tabou sur lequel le président aurait même refusé de répondre aux journalistes pendant son déplacement en Égypte, imaginez. Le journal pique notre curiosité avec ce titre « Les étés meurtriers des présidents ». Pour Philippe Gouliot et Anne Rovan, François Mitterrand était peut-être le dernier à pouvoir partir en vacances sans polémique. Jugez plutôt, été 95, les photos de Jacques Chirac à Brégançon, Bermuda rayée, chaussettes noires, chaussures de ville et l'ironie générale. 2003, le même se repose en famille au Canada en pleine canicule meurtrière et son image dans l'opinion en prend un sacré coup. 2007, tout juste élu, Nicolas Sarkozy part aux États-Unis dans une station huppée près d'un lac de Boston. Un écart que ne lui pardonnera pas non plus l'opinion. Des erreurs que les chefs d'État, on l'apprend ici, commettent systématiquement en début de mandat. Quand les présidents arrivent au pouvoir, ils ont toujours le sentiment, à juste titre, que les vacances sont bien méritées, mais la fonction ne s'arrête pas avec ses vacances. Décryptage signé Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy.
Et puis cette question, Olivier, pour les supporters de foot en particulier, à quelques heures de la reprise, suivre la Ligue 1 a-t-il encore le moindre intérêt ?
Deux quotidiens en font leur une ce matin, Le Parisien et Libé. Le second s'intéresse notamment à ces prêts toxiques de joueurs entre des clubs de plus en plus laminés financièrement, une gestion de court terme qui précarise les footballeurs et pervertit la compétition. Libé parle carrément d'une balle dans le pied du foot français. plongé par l'argent roi. Alors ce n'est pas nouveau certes, mais c'est aussi une sorte de mauvais cliché pour Laurent Nicolin, président délégué de Montpellier, qui dit en avoir assez qu'on lui rebatte les oreilles, notamment avec les valeurs du rugby. Il n'y a pas plus de valeurs que de beurre au cul, lance le digne fils de Louis Nicolin. En sport de haut niveau, on ne connaît qu'une seule valeur, la victoire, et le public le comprend comme ça. Quand un joueur perd, il gagne trop de pognon et va au put, et quand il gagne, il n'y va plus. Montpellier, justement, c'est aussi le dernier club à avoir été champion de Ligue 1 en 2012 avant la quasi-OPA du PSG sur le titre. De son côté, le Parisien, qu'on peut pourtant difficilement accuser d'hostilité envers l'équipe de la capitale, montre des signes de lassitude face à ce club qu'il dit devenu trop fort pour la Ligue 1. Il est même allé chercher l'un des meilleurs ennemis de l'équipe de Zlatan pour en parler, le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, quelque peu blasé par une compétition dominée sportivement et financièrement par Paris. Aujourd'hui, je ne vois pas qui peut revendiquer battre le PSG sur un championnat entier, se désole-t-il, avant d'ajouter « La place de Dauphin est devenue comme un titre de champion de France ». Si on nous avait dit il y a 3 ans que tous les clubs de Ligue 1 deviendraient des poulies d'or, on ne l'aurait sans doute pas cru.
C'était Olivier Bénis pour la revue de presse sur France Inter. Il est 8h37.